Vous m'en direz des nouvelles.
Amélie Beaucourt,
Jérémy Besset,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Un chat noir vêtu d'un costume, un pistolet à la main, une fouine avec une casquette et un appareil photo, des chiens policiers, un faucon ambitieux et calculateur, un ours tueur à gages. Vous aurez reconnu, si vous êtes fan, l'univers anthropomorphe de la bande dessinée de Guarnido et Díaz-Canales. Les deux auteurs espagnols ont installé il y a plus de 20 ans leurs animaux dans le New York des années 50, là où nous allons nous envoler aujourd'hui. Après 8 ans d'absence, le détective privé John Blacksad est enfin de retour dans cette ville qui ne dort jamais, celle où les notes des saxophones se mélangent aux volutes de cigares dans les clubs de jazz, celle où l'odeur nauséabonde des égouts n'est surpassée que par les manigances financières et politiques des puissants. Alors, tout tombe, le sixième tome de la saga Blacksad est paru chez Dargaud et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Juanjo Guarnido.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous émerveille tant dans une ville comme New York pour y avoir installé vos personnages ?
Alors, je n'ai pas été seul à prendre cette décision. Ça a été longuement mûri et réfléchi avec Juan Díaz-Canales, le scénariste. Et finalement, New York, c'est un peu le résumé de toutes les métropoles qui ont été et qu'on a vu passer et tomber. Je trouve qu'elle a un charme particulier et surtout, d'après mon propre vécu, puisque j'ai pris la peine d'y séjourner quelques mois il y a 2 ans, il y a une énergie inouïe dans cette ville.
Comment vous y prenez pour la dessiner, justement? Est-ce que vous rendez là-bas avec votre carnet de croquis? Vous nourrissez d'images du cinéma?
Des photos, j'en ai pris des milliers. À chaque fois, j'ai pris des croquis sur place. J'essaie de transmettre. Finalement, je m'applique consciemment et inconsciemment à transmettre ce côté énergisant et ce côté vivant, grouillant de New York.
Alors, dans ce sixième album, nous voilà donc de retour à New York, dans une ville en pleine mutation. De grands travaux ont été entrepris pour moderniser les réseaux de transport et notamment pour construire un énorme pont suspendu, une autoroute aérienne à 12 voies. Derrière tout ça, il y a Solomon, un homme politique que vous dessinez sous les traits d'un rapace et dont on parlera dans quelques minutes. Et en face, ou plutôt en dessous, il y a les travailleurs de la ville, les ouvriers, qui vont, eux, souffrir de ces réformes, ceux qui travaillent par exemple dans le métro, qui s'acharnent dans le bruit et la poussière à développer la ville souterraine. Leur représentant s'appelle Kenneth Clark, c'est une chauve-souris, c'est le président de leur syndicat et il est aujourd'hui menacé, puisqu'un tueur à gages a été envoyé pour le tuer. Il fait donc appel au service du chat détective, John Blacksad, qui donc reprend du service, et c'est là que l'enquête commence. On écoute justement la plongée de votre détective dans les entrailles de la ville.
La ville est la plus haute expression du triomphe collectif. Des millions de personnes organisées, des services pour tout le monde, une machine réglée comme du papier à musique, qui, comme n'importe quel artefact, est susceptible de tomber en panne. On détecte les pièces défectueuses devenues inutiles et on les met à la casse. Tout est remplaçable. Pourtant, dans les entrailles de la ville, il existe un endroit où la mécanique et l'humanité sont une réalité tangible et non une métaphore bon marché. Le terrier.
Je viens de la part de Kenneth Clark. Je cherche Farumfer, le chef mécanicien.
Un chat ?
Un détective.
Ok. Je vous en prie, hein, ne le prenez pas mal. Simplement, quand Kenneth m'a demandé de vous aider à vous fondre parmi nous, je pensais que ça se ferait discrètement.
C'était le but. Mais je vois que ça va être impossible. Je comprends à présent pourquoi on appelle ce lieu le terrier.
C'est péjoratif. Comme taupe.
Je ne voulais pas vous vexer.
Ça vous dit ?
Je veux bien un sandwich, merci.
C'est pas par plaisir hein, qu'on travaille dans les tunnels. Ça fait des années qu'on se bat pour qu'on nous confie des tâches moins pénibles. Maintenant, c'est moi qui vous présente mes excuses. Les gars sont aveuglés par cette fierté raciale absurde, comme si ça allait leur donner de quoi manger.
Kenneth m'a dit qu'il se méfie même de lui. Il trouve qu'une chauve-souris est moitié rat, moitié oiseau.
La méfiance date d'il y a longtemps, de l'époque où Solomon et Kenneth se sont serrés les coudes pour faire carrière, l'un à la mairie et l'autre au syndicat.
La politique conduit à d'étranges ménages.
Et maintenant que Solomon veut faire fermer plusieurs lignes de métro, on accuse Kenneth de connivence.
Juanjo Guarnido, dans ce terrier que vous avez dessiné, les travailleurs du métro sont sous la forme de rongeurs, de taupes, des animaux donc qui vivent sous terre. Mais qui sont-ils exactement? Quelle est leur histoire?
Ça représente, comme on fait souvent dans la série, en jouant sur le côté animal versus humain, ça représente toute une population au caractère assez prolétaire qui sont pas marginalisés, mais en tout cas quand on est à des travaux très pénibles, à des travaux sous-sol, à rester sous terre et puis à devenir finalement une espèce de race à part, un peu mise à part, un peu marginalisée. Dans ce cas, les jeux d'anthropomorphisme et de zoomorphisme sont très riches, et comme le dit Blacksad même dans le dialogue, le fait que le lien entre les puissants qui sont représentés par des oiseaux, le maire est un oiseau et le grand bâtisseur, le maître bâtisseur, c'est un faucon. Voilà leur rapport de prédateur. Son rapport à Solomon en particulier de prédateur vis-à-vis de toute cette petite faune d'animaux souterrains, d'animaux de terrier, le lien en tant que le chef syndical, c'est une chauve-souris qui est moitié rat, moitié oiseau. Ce n'est pas innocent, évidemment, c'est chargé d'intention et de symbolisme.
Alors votre détective, il va essayer de se fondre dans la masse, seulement il passe pas inaperçu, évidemment, parce que lui c'est un chat. Et il n'est pas accueilli à bras ouverts. On entend même le mot fierté raciale dans cet extrait, au moment où un ouvrier, qui est un rat, crache au pied de John Blacksad, qui est donc un chat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fierté raciale? Qu'est-ce que ça vient faire ici?
C'est ce jeu d'anthropomorphisme dont je voulais parler. Fierté raciale, pour pas dire fierté de classe, c'est un peu là. Il n'y a pas vraiment d'intention, je pense, dans les propos du scénariste. C'est plus entendu comme une fierté de classe. Il le spécifie, sauf qu'avec les animaux, on va plus loin, parce qu'on leur attribue dans Blacksad des rôles selon les espèces ou les ordres, les genres. Là, c'est tout un ordre, l'ordre entier des rongeurs, plus les lapins ou les lièvres qui sont d'un ordre voisins, enfin très proches, sont des cousins. Du coup, on en joue pour faire un groupe humain qui est séparé des autres, non pas particulièrement par une race, mais plus par un type d'occupation. C'est plus un trait de caractère, quoi, une condition sociale. Tout est, je pense que tout est très flexible dans une certaine façon. Je veux dire, le jeu est ouvert à plein de considérations. Ce n'est pas juste se dire, ben voilà, telle race contre l'autre race. On avait joué de ça de façon beaucoup plus claire dans Arctic Nation. Et même là, il ne s'agissait pas des animaux plus blancs que blancs. Les animaux plus blancs ne représentent pas des gens plus blancs à la peau plus claire, mais représentent les suprémacistes blancs, les noirs qui sont très noirs sont le groupe qui évoquait les Black Claws, qui évoque les panthères noires, donc du coup c'est des activistes militants violents souvent, donc tout ça, c'est, il faut les prendre avec toute la subtilité que mon scénariste a utilisé pour dépeindre ces univers.
Dans ce terrier, il y a aussi une catégorie de personnages qui est encore plus marginalisée, sont les travailleurs fantômes. Qu'est-ce qu'ils font là et qui sont-ils?
Le scénariste avait fait des recherches sur cette histoire. Souvent, apparemment, les mafias infiltraient des groupes de travailleurs comme ça en recrutant des SDF, des vagabonds, des traînards, pour qu'ils participent à des assemblées et peser dans le vote.
Pour un poids politique.
Oui, pour des enjeux de politique, de pouvoir syndical et des intérêts finalement. Finalement, c'est que des questions d'intérêts. Ça s'est évoqué aussi de façon super puissante dans le dans le film d'Elia Kazan, en The Waterfront, je sais plus, c'était la loi du silence, je crois, en français, je sais plus. Bon, voilà, avec Marlon Brando, encore une fois Marlon Brando qui revient tourner autour du fantôme de Black Sabbath.
Alors toutes ces classes sociales, elles se mélangent dans cet album. Moi, ça m'a fait penser à le surnom qu'Alicia Keys donne à la ville de New York dans la chanson Empire State of Mind que vous devez connaître. Elle dit que New York, c'est une jungle de béton. Effectivement, on se rend compte que les petits sont mangés par les gros, comme vous le disiez, et que la misère côtoie aussi toute l'extrême richesse, la toute puissance, etc. Est-ce que vous trouvez que New York, c'est une ville qui broie les gens?
Pas particulièrement New York, je dirais. La vie broie les gens. À New York, j'ai vu, c'est complexe. Disons que dans une ville qui change autant, disons que dans une société, un monde, des années comme ces années récentes qui changent de façon tellement rapide, une ville comme New York exacerbe les changements de société, les enjeux, les conditions de vie des uns et des autres. Globalement, New York c'est une ville assez riche, mais aussi elle est très chère. À Manhattan, beaucoup de gens ont beaucoup de difficultés à se loger, donc ils vivent dans les banlieues, dans d'autres quartiers. Et il y a énormément de pauvres. Il y a énormément de pauvres. Alors, il y a énormément de pauvres dans les rues, de pauvres visibles. Et leur situation est étrange parce qu'ils sont complètement abandonnés à leur sort. Et pourtant, c'est très étrange. Ils manquent pas de nourriture. Ils sont souvent obèses. Parce que le système produit beaucoup de nourriture. Ils n'ont pas de problème pour se nourrir, mais ils se nourrissent horriblement mal. Et ils sont à la proie de plein de maladies, à commencer par le diabète et plein d'autres, tous ceux qu'ils vont attraper dans la rue. Mais ce ne sont pas des problèmes qui sont, je pense, exclusifs ni à la société américaine, ni évidemment à New York. On a les mêmes problèmes ici, et puis l'humanité avance comme ça, en progressant et en créant de la prospérité sous certains aspects, elle échoue à effacer les fruits, je dirais, le fruit extrême de certaines disparités qui créent des cas dramatiques.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Juanjo Guarnido, le dessinateur des aventures de Black Sad, bande dessinée où les personnages sont représentés dans toute leur grandeur et leur bassesse par des animaux et leur caractère si particulier. L'un des personnages justement dont on a parlé et qui est central de cette intrigue de ce sixième tome, c'est Solomon, un rapace qui est un haut fonctionnaire. Il a de grands projets pour faire basculer la ville dans la modernité. C'est un maître bâtisseur de New York et d'ailleurs dans les années 50, il y en a eu un justement qui s'appelle Robert Moses. C'est un homme qui s'était mis en tête justement de moderniser la ville coûte que coûte. Est-ce que c'est de lui qu'est inspiré le personnage de Solomon?
Oui, clairement. Le personnage de Solomon, il a eu énormément de pouvoir alors qu'il n'était ni architecte ni élu politique. Son rôle était assez diffus et pourtant il avait une influence énorme. Et voilà, et son empreinte est restée gravée dans la ville. Il était très controversé parce que lui, c'était essentiellement un visionnaire. Lui, son exemple, son modèle était Haussmann, qui a rasé le Paris ancien. Pour bâtir le Paris qu'on connaît aujourd'hui et qu'on adore et qu'on trouve merveilleux et romantique, alors qu'avant il y avait un Paris avec des traces de toutes les époques, y compris l'époque médiévale, les époques de l'Antiquité, et il en reste quasiment rien. mais c'était un visionnaire. Moses, c'était aussi un visionnaire qui, à un moment où la voiture se démocratisait à une vitesse incroyable, se disait que l'avenir était dans le transport individuel, que c'était la liberté, que c'était la modernité, que c'était l'émancipation de chaque individu, y compris les pauvres. Il pensait que tous les pauvres se déplaceraient en voiture et que le transport public, ça n'avait pas de sens.
Alors, à partir du moment où on a ce personnage-là, le personnage historique, comment est-ce qu'on passe à un animal de fiction ? Quel a été le processus pour faire en sorte de faire rentrer Robert Moses dans les chaussures de Solomon, ou plutôt l'inverse?
Disons, je pense que c'est plus que ça. Il faut dire que la figure de Moses et le personnage de Solomon qui en découle, c'est même pas la question qu'on le caricature, on s'en inspire pour créer un personnage qui a en plus des traits de Solomon pour lesquels il est connu, et puis l'image publique du personnage, mais aussi c'est quelqu'un sans scrupules qui va aller jusqu'au bout dans ses intentions et qui pourra aller dans des ressources criminelles et faire tuer des gens ou des choses comme ça pour aller jusqu'au bout de ses propos, de ses intentions, mais avec une vision. Il le fait pas par caprice ni par cruauté. Pourtant, et ce personnage, du coup, c'est lui qui amène l'histoire. C'est lui la figure centrale qui amène l'histoire par son activité et ces terrains d'agissement, dans la mesure où ça affecte tout le monde dans la ville, y compris Black Sad, les gens que Black Sad va côtoyer, ce personnage de leader syndical et autres. Donc, du coup, et Weekly, sous un angle différent. Donc, tout le monde va être affecté et ça tourne vraiment autour de Solomon.
Ce personnage historique est donc caricaturé ici en tant que Solomon. Robert Moses, lui, il a en 1959 justement eu une histoire avec une compagnie de théâtre, avec la compagnie, le festival Shakespeare in the Park, qui donc produisait des pièces de Shakespeare en plein Central Park. Un théâtre auquel il va demander de payer une taxe à un moment donné pour rembourser apparemment l'érosion du sol, enfin le fait qu'il soit installé dans un parc, etc. C'est exactement ce qui se passe dans la bande dessinée, d'ailleurs, c'est la première scène. Qu'est-ce qui dérange tant cet homme ? Parce qu'on a du mal à imaginer qu'il puisse se sentir menacé par une troupe d'artistes qui se produisent dans un parc. Qu'est-ce qui l'embête ? Pourquoi est-ce qu'il va venir les embêter ?
On parle de Moses ou de Solomon ? Parce que c'est différent. Chez Solomon, c'est ce côté jusqu'au boutiste, finalement, où pour lui, comme il dit, la fin justifie les moyens et on fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est un peu la philosophie d'un homme qui pense malgré tout bien faire, qui est évidemment un but de lui-même, de son génie, de son côté visionnaire et qui a un hubris démesuré et doublé de méthodes peu orthodoxes et d'un manque de morale totalement injustifiable qui le mène à vraiment disposer de la vie d'autres gens quand ils trouvent qu'ils vont à l'encontre de ses projets, et ses projets c'est l'avenir et ce qu'il y a de plus important. Donc finalement même il pourrait lui-même se justifier des crimes dont il a été commanditaire depuis à plus d'un titre, plus d'une fois et depuis longtemps pour arriver à ses objectifs.
Cette troupe de théâtre, elle prépare un spectacle qu'on voit à la fin de la bande dessinée qui s'appelle Macbeth, bien connue, une pièce classique de Shakespeare. Pourquoi cette pièce en particulier ? Est-ce que ça a pas un lien avec l'histoire aussi ?
Ça a un gros lien avec l'histoire et le scénariste a monté une scène, un montage en parallèle avec une action qui se passe à un autre moment. En fait, je dis bien à un autre moment, ça se passe à un autre endroit, mais à un autre moment. Et du coup, les scènes sont saupoudrées, pas totalement dans la chronologie exacte, mais ça fait écho à ce qui se passe sur scène avec Macbeth, où effectivement c'est aussi une histoire qui parle de conflits d'intérêts, d'ambitions démesurées, de manque de scrupules, de cruauté, évidemment, d'assassinat.
Est-ce que Black Sad pourrait être adapté en pièce de théâtre ?
Ah, j'en sais rien, mais je pense que ce serait pittoresque à voir. Notre scénariste, Alain Hérol, a vu se produire des pièces de théâtre à partir de Cap et de Croc. Et bon Dieu, j'aurais payé beaucoup d'argent pour voir ça. Ça a dû être, apparemment, c'était très très beau et très inspiré.
Qu'est-ce que vous aimeriez dans le rôle de John Black Sad si vous pouviez choisir le comédien ?
Pour le théâtre, je ne saurais pas dire, parce que dans le théâtre, pour le cinéma, moi, depuis un moment, j'ai imaginé bien Idriss Elba dans le rôle. Mais je crois qu'il a récemment joué un chat et qu'il en est sorti échaudé. Donc, je crains que ce soit difficile de le convaincre pour une prochaine fois.
That old black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. Those icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. The same old tingle that I feel inside. And then that elevator starts its ride. And down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in the tide. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame. Aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. For you're the lover I've waited for, the mate that fate had me created for. And every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round and round I go, in a spin, love in a spin I'm in, under that old black magic called love. I should stay away, but what can I do? I hear your name, and I'm aflame, aflame with such a burning desire that only your kiss can put out the fire. For you're the lover I have waited for, the mate that fate had me created for. Every time your lips meet mine, darling, down and down I go, round and round I go, in a spin, loving the spin I'm in, under that old black magic called love.
That Old Black Magic, interprété par l'américaine Sarah Vaughan dans VMDN, une chanson qu'on entend justement à la lecture du 6e tome de Black Sad, Alors tout tombe, que notre invité Juanjo Guarnido a dessiné. Alors là, nous sommes déjà à la moitié de la bande dessinée et John Black Sad, votre détective privé, va inviter Iris Allen à prendre un verre. Alors Iris Allen, c'est la directrice de cette troupe de théâtre dont on parlait. C'est un personnage clé de l'intrigue puisqu'elle représente les artistes, le monde du spectacle vivant dans un New York en pleine mutation, on l'a dit, et qui est en conflit permanent avec les pouvoirs publics de la ville. Est-ce que vous pourriez nous décrire physiquement et mentalement Iris Allen ?
Iris Allen est formidable. Je trouve que c'est le personnage le plus attachant du livre. C'est quelqu'un de très engagé, de très généreux, d'extrêmement talentueux aussi. Voilà, c'est, elle dirige une troupe de théâtre, donne des cours d'interprétation. Et c'est la veuve du leader syndical qui a précédé
Kenneth Clark
au syndicat des travailleurs du métro.
Et qui Iris, est décédé lui aussi, oui.
Oui, et Iris est un alpaca. Elle était décrite comme un alpaca dans le scénario immédiatement, et j'avais dans mes notes, dans mes croquis faits sur place, des Indes fourbes au Pérou, j'avais fait le portrait d'une alpaca très très gentille. Elle s'appelait Monica d'ailleurs. Sa maîtresse me l'a présentée comme ça. C'est Monica l'alpaca. Je l'ai prise en photo et j'ai pris plusieurs croquis. L'alpaca, c'est contrairement au lama. Le lama, c'est moche et ça a très très mauvais caractère. L'alpaca a un caractère super doux. C'est super beau. Ça ne vous crache pas dessus. Ça, les bébés sont voilà, c'est des petits, on dirait des bouts de coton. C'est très beau, très agréable et très des animaux doux et pacifiques. Et à partir de mes propres croquis, j'avais dessiné un alpaca un peu plus stylisé à l'époque des Indes fourbes. Et quand le scénario m'est tombé entre les mains, je me suis dit, mais je l'ai déjà, Iris, c'est bon. Du coup, après, je l'ai peaufiné un petit peu pour, voilà, avoir des traits un peu plus précis pour elle, en faire une dame d'un certain âge, mais à l'air juvénile. Mmh. C'est comme ça qu'elle est décrite dans le scénario, d'ailleurs.
Vous savez pourquoi Díaz-Canales a choisi justement un alpaga pour représenter?
Non, je ne sais pas, mais moi, ça m'évoquait. Ça m'évoquait rapidement le personnage et puis voilà, ça a marché très vite. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez une idée?
Aucune, mais ça, en tout cas, ça fonctionne bien.
Je le trouve.
Dans cet épisode, justement, ce passage-là de la bande dessinée, il y a une référence absolument magnifique qu'on détecte tout de suite. John Blacksad suit Iris Allen dans la rue. Alors, il fait froid, sombre, exactement comme en ce moment à Paris. Le soir s'installe et la pluie menace d'arroser toute la ville. John propose donc un verre à Iris, qui accepte, il se dirige vers un bar, et là, surprise, vous dessinez le célèbre bar d'Edward Hopper, avec ses silhouettes silencieuses, ses oiseaux de nuit, au comptoir qu'on aperçoit à travers la vitre. Pourquoi ce clin d'œil à Nighthawks ?
Alors, Nighthawks a déjà été hommagé maintes fois dans la bande dessinée et dans tous les autres arts plastiques. C'est tellement iconique que Juan me disait dans le scénario, est-ce que ce serait opportun de faire un énième hommage à Nighthawks dans cette séquence? Moi, je trouve que le bar dans Nighthawks, il est très très froid, terriblement froid, complètement les murs complètement dénudés de tout objet, de tout repère visuel. Ça aurait été, pour moi, ça aurait été, et vu comment j'aime représenter les gens et les endroits, les ambiances en particulier, ça aurait été un supplice de me retrouver avec un décor aussi minimaliste. Mais je le trouvais très pertinent de toute façon. Et du coup, on a fait l'hommage par un petit détour. On commence par le bar où on aurait pu placer nos personnages qui partageraient un café, sauf que on recule et on voit que le tableau, en fait, il est affiché dans un café du pur style new-yorkais de l'époque victorienne. Il y a beaucoup de bars à New York de ce style-là, avec des boiseries somptueuses, des
bien
espaces très très beaux, très chaleureux, très cosy, très victorien vraiment, avec des canapés et des meubles assez classieux, luxueux. Et je trouvais ça beaucoup plus agréable pour ce moment en commun, pour ce café pour Iris, gin tonic pour Blacksad. Et cet échange de confidences qui va tellement les rapprocher.
Et pour un dessinateur, est-ce que c'est un challenge de reproduire comme ça un tableau de maître comme celui-là?
Disons qu'il ne faut pas se prendre trop au sérieux à ce moment-là. J'en fais une petite reproduction. J'essaie d'imiter les couleurs. De toute façon, tout est là. Il suffit de le copier. J'ai vaguement changé les personnages pour qu'ils aient l'air animaliers, mais c'est tout. Après, c'est juste un clin d'œil, un un petit effort de concentration pour pas trop s'éloigner. Et puis un travail de synthèse, évidemment, dans un tableau qui est bien plus grand, bien plus complexe. Imaginez, ma case est la taille de la paume d'une main.
Vous êtes inspiré par la peinture en général lorsque vous dessinez ?
Oui, toujours, beaucoup.
Et quels artistes ?
Plein, je ne pourrais pas vous dire, beaucoup d'illustrateurs, beaucoup des illustrateurs américains de la première moitié du XXe siècle, y compris Hopper. Son travail comme illustrateur est complètement dénosté et méprisé par la critique. Dans les expos Hopper, son travail en tant qu'illustrateur, il était ridiculisé. On en parlait avec un mépris mais insupportable. C'était de l'alimentaire, il faisait ça à contre-cœur, il détestait faire ça, alors que pour moi je pèse mes mots. Après, chacun a son opinion, et on sait ce que vaut une opinion selon Clint Eastwood, mais pour moi Hopper illustrateur est même plus intéressant que Hopper peintre. Et déjà, le Hopper peintre, il est très très intéressant. C'est un grand peintre, mais je trouve qu'il est encore plus grand illustrateur. Et comme peintre, beaucoup de peintres baroques, de Velázquez à Franz Hals, de récents, dans le 19e siècle, il y a eu pléiade de peintres réalistes qui ont développé une technique qui arrive à son summum avec Sorolla et Sargent. J'étudie tout ça, j'étudie leur palette couleur, je m'imbibe de ça tant que je peux, sachant que bon, que moi je travaille des petites illustrations à l'aquarelle, dans des tailles minimes, que tout ce que je peux faire, c'est m'en inspirer, et je trouve déjà que le fait de pouvoir profiter de toutes ces images à une époque où on a accès à des livres, et en ce moment en plus à des images internet en haute résolution que vous pouvez voir avec quand même assez de brillance sur un écran et pour les admirer en détail, c'est quand même une énorme chance.
Il y a une autre icône qui vous a inspiré cette fois pour dessiner le John Black Sad séducteur, c'est Marlon Brando. Pourquoi lui?
Dans le premier tome, j'étais tombé sur une photo de Brando de profil où sa mâchoire était assez marquée, et voilà, on voyait son profil. Il avait un très beau profil, il avait un nez aquilin mais court. C'était pas un gars qui avait un bec d'oiseau, mais il avait un septum avec une forme très masculine, aussi masculine que la mâchoire, et pourtant un regard feutré et noir troublant même pour les mâles hétéros. Donc j'avais hérité un petit peu de cet aspect, mais mon Black Sad à l'époque, il était encore trop animal, il était encore trop chat. Il est devenu de plus en plus hybride, humain. Disons que la tête de Black Sad aujourd'hui, depuis presque le deuxième tome, est basé sur un crâne humain masculin, et avec des traits de chat collés dessus. Ce n'est pas la forme ovale et beaucoup plus raplatie d'un crâne félin. Et au fur et à mesure qu'il est devenu plus réaliste, et notamment sur ce dernier tome, je me suis inspiré de plus en plus des traits précis de Brando et de son côté, de cette masculinité séduisante, et les différents aspects de son visage qui ont ce charme, ce tapis terrible.
Parce que effectivement, on suit donc les aventures de détective de John, mais on suit aussi de près ses aventures avec les femmes. C'est quoi son type de femme à John Black Sad ?
En général, ce sont des chats. C'est un peu ce qui, disons que c'est facile aussi quand un personnage féminin est un chat. C'est aussi une petite piste qu'on donne au lecteur pour se dire, peut-être que celle-là et Black Sad ils vont coller.
Il y a une autre dimension qu'on retrouve dans cette bande dessinée, c'est que vos personnages féminins, justement, ils se rebiffent contre le machisme ambiant de l'époque. Alors, on a des mains aux fesses, des commentaires sexistes, etc. Est-ce que c'est une façon de rappeler que le harcèlement sexuel est bien plus vieux que ce qu'on a l'air de croire aujourd'hui ?
Oui, mais en même temps, on ne veut pas faire de notre histoire, on représente ce qu'on considère était la réalité sociale et puis ce qui arrivait dans notre société, dans les rapports hommes-femmes à cette époque-là. Aujourd'hui, bah évidemment, il y a beaucoup de traits négatifs qui perdurent, mais on veut pas faire non plus de l'anachronisme dans le sens où on se dirait, ben voilà, on parle des sujets d'aujourd'hui avec les moyens et avec et surtout en décrivant la situation dans les années 50, parce qu'on pense que dans les années 50, voilà, la situation était ce qu'elle était, ce qu'on croit comprendre qu'elle était. Et aujourd'hui, bon, ça a changé. Peut-être que dans certains aspects, je veux pas être controversé, peut-être que dans certains aspects, c'est mieux, peut-être que dans d'autres, c'est pire, ou c'est la même chose. Mais ce n'est pas notre souci. Notre souci, c'est de se dire, à ce moment-là, c'était difficile pour des femmes professionnelles de s'ouvrir, de se frayer un chemin. Il y avait, avec le début de la pub, il y avait une objectualisation de la femme. Mm-hmm. C'était le début de Playboy. Mais aussi, il y avait un côté ludique, je pense qu'il y avait une candeur dans la société en général. La société était la pornographie n'existait pas. Bon, ça existait mais complètement, de façon complètement clandestine. Il y avait une certaine candeur que malgré tout, après tout, enfin et ça c'est personnel de mon côté. Je parle pas pour le scénariste, peut-être dans ce cas-là, c'est une certaine candeur que je trouve un peu attachante malgré tout chez les Américains. Mais bon, évidemment, voilà la situation, l'égalité des sexes, ça n'était pas encore au rendez-vous, ça, c'est clair.
Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais plus certainement parce que cela ressemble aux vestiges de l'être civilisé que je fus jadis.
Ce qu'on vient d'entendre, Juan Reguarnido, c'est la scène d'introduction du jeu vidéo Black Sad. Car votre bande dessinée a effectivement été adaptée sur ordinateur et console par les studios Pendulo et Is Interactive. C'est une aventure à part entière, hein, pas un album précis qui a été adapté. Comment est-ce que vous avez perçu cette adaptation quand on vous a dit on aimerait adapter Black Sad en jeu vidéo? Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Bon, déjà, c'est pas l'adaptation d'un des albums, comme vous l'avez précisé. C'est une histoire nouvelle qui a été créée par les studios et par les équipes qui ont participé. Ça nous a flatté. Moi, ça m'a flatté de voir que notre personnage, je pense que pour le scénariste aussi, il vivait sur un autre terrain, il investissait à notre médium, un médium aussi populaire et aussi accessible à un si grand nombre de gens que le jeu vidéo. Et puis le travail a été très bien fait, le design des personnages est très 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 cohérent avec celui des albums de Black Sad. Le personnage de Black Sad, il a été plutôt bien modélisé. C'est un budget quand même très conséquent pour une production comme ça. Il y a beaucoup de limitations et voilà, et je trouve que les équipes ont bravé ces limitations, ces restrictions, et celles qui sont propres au genre et celles qui viennent de ne pas disposer d'un temps infini, avec beaucoup beaucoup de talent.
Ça vous a rappelé vos jeunes années, en studio d'animation peut-être, puisque vous avez travaillé pendant 10 ans pour Disney, et j'ai lu que c'est à vous qu'on doit Bagheera, la panthère du livre de la jungle.
Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est faux alors.
Alors voyons. Alors le livre de la jungle, le livre de la jungle, le film, il a été fait à l'année où je suis né. Il est
vieux comme moi. Donc ça peut pas du
il
tout
est vieux
être...
comme moi ce film. C'est la deuxième partie. A été fait, et effectivement, c'est le dernier dessin animé où j'ai travaillé chez Walt Disney, mais c'était le Jungle Book 2. la deuxième partie, j'ai fait quelques plans de Bagheera, pas juste, je l'ai juste animé sur deux ou trois scènes, c'est tout.
Merci beaucoup Juanjo Guarnido d'être venu nous parler du dernier tome de Black Sad, scénarisé par Juan Diaz-Canales, qu'on salue au passage. Alors tout tombe, première partie d'un diptyque dont le deuxième volet paraîtra chez Dargo, je crois, en 2023, c'est ça?
Oui, il faut nous donner une bonne année et demie pour le faire. Il est déjà entamé, il est écrit évidemment, et le découpage est fait, et puis maintenant il n'y a plus qu'à.
Eh bien, on a hâte de connaître la suite, en tout cas. Est-ce que vous aimez Goya, le peintre Goya, Juanjo Guarnido? Alors, restez avec nous, car on va parler justement de ce peintre dans quelques secondes. Mais avant, une promesse de cœur de pirate. On s'aimera toujours sur RFI.
J'espérais reprendre un peu mon souffle, mais le mal comptait ses proies. Et je l'imagine encore à mes trousses. Tu es entré dans la danse. J'ai éclipsé ce qui me restait. Les autres n'ont plus d'importance. Tes dires deviennent ma destinée. Comme si on se connaissait, et nos histoires reprennent leurs ébats. Qu'importe ce qu'on dit de nous, on vit à deux ce que l'on ne sait pas. En image, on dit adieu, on vit dans ce que l'on ne connaît pas.
On s'aimera toujours, extrait du dernier album de Cœur de Pirate sur RFI. Et direction les Hauts-de-France à présent, notre reporter Marjorie Bertin s'est rendue au Palais des Beaux-Arts de Lille où se tient Expérience Goya, une exposition insolite qui propose de plonger dans l'univers du peintre espagnol et ceux des artistes qu'il a influencés à travers ses peintures, des extraits de films et des dispositifs immersifs numériques. Reportage.
C'est dans une structure circulaire que l'immersion commence. Une gigantesque vidéo à 360 degrés nous plonge dans les dessins et les peintures de Goya. Les œuvres se superposent, certaines s'animent, puis au sous-sol, nous pénétrons dans une reconstruction de la Maison du Sourd, la dernière demeure espagnole du peintre avant son exil pour la France en 1824. Des couloirs ornés de ses toiles nous guident jusqu'à son salon. Goya l'avait décoré de 14 portraits cauchemardesques et angoissés réalisés à même le plâtre des murs. On en voit 7. D'abord en noir et blanc, ce sont les photographies des murs en 1874, sur lesquelles se superposent ensuite des versions colorisées telles qu'on peut les voir restaurées au musée du Prado de Madrid. Ces projections sont la réalisation de Régis Cotentin, l'un des deux commissaires de l'exposition.
Alors j'ai utilisé plusieurs logiciels de colorisation de façon justement à être au plus près de leurs couleurs. Ce qui n'a pas été étonnant, c'est qu'évidemment on en revient à retrouver les couleurs qui sont celles des peintures transférées sur toile au Prado. Pour autant, ils sont passés de mur en plâtre à un transfert sur toile, et ce transfert du mur à la toile a endommagé certaines parties des peintures qui ont dû être reconstituées par le restaurateur. Alors si on est vraiment très sensible et à regarder chaque visage, on découvre effectivement des véritables différences.
On pénètre ensuite dans une grande salle. S'y trouvent aussi bien des œuvres de Goya que celles d'artistes qui l'a inspiré. Salvador Dali, Henri Cartier-Bresson ou encore les frères Chapman. Là aussi, une vidéo de peinture numérisée dévoile des secrets de fabrication des peintures de Goya. Pour Bruno Girvaud, directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille, cette exposition stimulante a également pour vocation de faire venir de nouveaux publics.
L'immersion numérique, elle permet d'appréhender d'une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitive l'œuvre de Goya, qui nous émerge dans son univers à la fois artistique et mental. Et aussi un autre élément qui est la musique. Un compositeur, Bruno Le Thor, a composé une musique qui accompagne le visiteur tout au long et qui se complète au fur et à mesure avec une sorte de progression presque théâtrale. Et tout ceci, ça nous permet de viser d'autres publics qui ne savent pas grand-chose choses de Goya, qui vont tout apprendre, auxquelles on va aussi offrir la possibilité de comprendre Goya d'une autre façon, qui n'est pas purement intellectuelle, mais qui est aussi sur le ressenti.
Sont aussi projetés des extraits de films inspirés par Goya. Le labyrinthe de Pan du mexicain Guillermo del Toro, le Casanova de Fellini, ou plus étonnamment, Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Les correspondances sont frappantes. Comment expliquer son influence sur des artistes aussi éclectiques? Est-ce qu'une caractéristique récurrente marque l'œuvre de Goya? Devant deux peintures mythiques, les jeunes et les vieilles, exposées pour la première fois sans leur cadre doré, Donatienne Dujardin, co-commissaire de l'exposition, nous répond.
Goya disait « J'ai choisi la liberté et je travaille à la conserver ». C'est une phrase qui se retrouve, les fameux cartons de tapisserie. On voit déjà cette liberté de choix. Hein. Il disait lui-même qu'il avait choisi les motifs selon sa propre invention. Donc c'est vraiment la liberté. Et de factures qu'on trouve dans les deux tableaux, les jeunes et les vieilles, et de motifs, sujets. Et c'est là aussi, le point commun aux deux tableaux, ce sont des iconographies qui restent encore avec certains de leurs secrets.
Goya, dont la vie fut aussi romanesque et tourmentée que ses toiles, n'en a pas fini d'influencer les artistes et de susciter des théories et des interrogations. Immersion fascinante, contemporaine et éclectique, expérience Goya permet de le découvrir autrement et plus intensément.
La tierra de España, la grande, la sola, desierta, llanura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
Expérience Goya, une exposition pleine de médiation et de correspondance à voir au Palais des Beaux-Arts de Lille, dans le nord de la France, jusqu'au 14 février 2022. Un reportage signé Marjorie Bertin. L'émission touche à sa fin, merci à Yasmine Boulan et Jérémy Besset. Demain, ce sont les femmes qui sont à l'honneur dans VMDN, Cléopâtre, Mata Hari, Frida Kahlo, Rosa Parks, Oprah Winfrey. Notre invitée Virginie Giraud a dressé le portrait de 40 ambitieuses, 40 icônes politiques, artistiques qui ont su prendre le pouvoir qu'on leur refusait. À demain, mardi, même heure, sur RFI.